Radio Okapi.
Le journal Blaise Chindani.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. L'école nationale d'administration sera bientôt dotée d'un campus à Kinshasa. C'est l'instruction de Félix-Antoine Tshisekedi au gouvernement de la République. C'était hier lors de la cérémonie couplée marquant l'entrée de la 10e promotion et la sortie de la 9e promotion de l'ENA. Les Nations Unies saluent la disponibilité de l'Angola à aider à l'organisation d'un dialogue national inclusif entre les Congolais. Déclaration hier mardi à Kinshasa de Jean-Pierre Lacroix. Cela à l'issue des consultations avec les forces sociales et politiques de la RDC et les autorités au sommet de l'État. L'absence prolongée du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, pose problème. Cette absence est une violation de la loi, a déclaré Maître Justin Kiela, président national du parti Vent d'Avenir, lundi à Lubumbashi lors d'une conférence de presse. Cette question était débattue hier au cours de l'émission Dialogue entre Congolais. Vous suivrez tour à tour les intervenants à cette émission au micro de Guimate Tsongu. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal Parlé du matin. Bientôt un campus pour l'école nationale d'administration à Kinshasa. Le président de la République a instruit le gouvernement de le construire dans les jours à venir. Félix-Antoine Tshisekedi a formulé cette demande hier mardi à Kinshasa lors de la cérémonie couplée marquant l'entrée de la 10e promotion et la sortie de la 9e promotion de l'ENA. De son côté, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a assuré que plus de 900 postes sont réservés aux lauréats de la 9e promotion. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Organisée au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale, cette cérémonie a coïncidé avec la célébration du 10e anniversaire de l'École nationale d'administration. Dans son discours, le directeur général de cet établissement public explique que l'ambition est de contribuer à la professionnalisation de la gestion des projets et des pratiques de gouvernance en RDC. Tombola Mouké annonce pendant le lancement dès le mois de mai prochain d'un programme spécialisé destiné aux dirigeants du secteur public en vue de co-construire la solution congolaise du leadership. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique note que la réforme de l'État dépend de la qualité des femmes et hommes qui l'incarnent. Jean-Pierre Liaou s'est réjoui qu'Elena soit désormais placée au cœur de la refondation de l'administration publique, accordant ainsi la chance égale aux jeunes de toutes catégories. Pour sa part, le chef de l'État indique que la grandeur de la RDC ne réside pas seulement dans ses richesses du sol et du sous-sol, mais également dans la qualité de sa ressource humaine. Félix Tshisekedi souhaite qu'Elena puisse se déployer à travers les pays et se doter d'un campus à la grandeur de ses ambitions. En 10 ans, au moins 482 jeunes sont sortis de l'ENA et la plupart œuvrent déjà au sein de l'administration publique.
Bonne nouvelle également pour la population de Beni au Nord Kivu. Au moins 16 infrastructures de base, dont 13 écoles et 3 centres de santé construites dans le cadre du projet de relèvement communautaire mené par Star RDC Entendé, projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC Star RDC en sigle, leur ont été officiellement remises lundi. Satisfaction évidemment du côté des heureux bénéficiaires, ces infrastructures devant améliorer leurs conditions d'études et de prise en charge sanitaire. Le point avec Marc Marofimbo.
Il s'agit de 7 écoles primaires, 6 écoles secondaires et 3 centres de santé, tous terminés et remis aux bénéficiaires lors d'une cérémonie marquée par la présence du vice-gouverneur de la province. Les centres de santé se trouvent à Mabaku, Irango et Halungupa. Quant aux écoles, dans les territoires de Beni, elles sont situées à Masosi, Masaka, Semuliki, Safina, Kalunguta et Kambi. En ville, on retrouve Keshen, lieu de cérémonie, Ngongolio, Emmaüs, Kassando, Ntoni, ainsi que les secondaires instituts à Sefu et Wasinya. Les élèves de Keshen ont exprimé leur satisfaction.
Je me sens laissé. Je dis que Dieu bénisse le Star Est de nous donner le nouvel bâtiment.
Nous étudions ici, mais nous n'étudions pas bien. J'ai dit merci.
Le directeur de l'école primaire, David Mugabundamwanga, a souligné l'importance de cette dotation pour la qualité de l'éducation.
Nous soulignons la qualité de l'éducation. Et comme nous avons maintenant des salles de qualité, nous pensons que nous allons offrir une éducation de qualité à nos enfants.
Star RDC poursuit la construction des vessies, autres infrastructures durables. 6 projets d'eau potable sont également en cours, tandis que d'autres besoins sont à l'étude et seront réalisés après cette première phase. Beni Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Les Nations Unies saluent la disponibilité de l'Angola à aider à l'organisation d'un dialogue national inclusif entre les Congolais. Déclaration hier mardi à Kinshasa du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Cela à l'issue des consultations avec les forces sociales et politiques de la RDC et les autorités au sommet de l'État. Jean-Pierre Lacroix a déclaré que la MONUSCO va apporter son soutien à tous les progrès pour aboutir à la concrétisation des engagements, y compris en matière de la vérification du respect du cessez-le-feu. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Alors pour ce qui concerne les efforts de dialogue, nous avons pris note avec beaucoup d'intérêt des derniers développements de la disponibilité de l'Angola à aider à l'organisation d'un dialogue inclusif. Et je crois qu'il y a un grand nombre de formations politiques qui ont des attentes en matière de dialogue inclusif. Je pense aussi que l'apport d'une tierce partie, je pense que l'Angola effectivement peut jouer ce rôle pour faire aboutir cet objectif. Importance cruciale que les efforts diplomatiques s'intensifient pour aboutir à la concrétisation des engagements, notamment en matière de cessez-le-feu. Et en complément de ces efforts, le rôle de la MONUSCO, c'est d'être prête, disponible et proactive même pour appuyer tous les progrès qui seront réalisés dans cette direction. Nous y travaillons, mais en ayant le souci combiné, de l'efficacité, du coût-efficacité. Nous les faisons parce que cela a été demandé par le Conseil de sécurité. Donc implicitement, le Conseil de sécurité a déjà ouvert la voie pour que la MONUSCO joue pleinement ce rôle en soutien, non seulement au respect, à la vérification du respect du cessez-le-feu, mais aussi, bien entendu, soutien à la mise en œuvre des autres engagements qui sont pris.
Création d'une mission par la CNDH le 2 février dernier en vue de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme liées au massacre des populations civiles au Kasaï central et au double meurtre des experts onusiens Zaïda Catalan et Michael Sharp. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme note des avancées positives. Paul Sampomokolo, qui était l'invité de l'émission Parole aux auditeurs hier mardi 10 février 2026, a indiqué que cette mission avance dans la bonne direction et vise à identifier les auteurs des violations des droits de l'homme liées à ces massacres des civils dans les Kasaï central entre 2016 et 2017 pendant la crise de Kamwana-Sampou ainsi qu'au meurtre des deux experts onusiens. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou, est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Nous ne sommes qu'à la phase préliminaire, mais nous avons des indices sérieux que voilà. Le temps de la justice, le temps pour élucider un meurtre, un crime comme celui-là, c'est le temps de l'avancement même de la mission d'enquête qui commence par la mission d'établissement de faits. Et puisque nous avons ces indices-là et nous avons une panoplie de cartes que nous pouvons dessiner sur le lieu où les crimes ont été commis et des témoins, on n'en manque pas. Mais déjà, ceux qui sont dans les box, ce sont des personnes que nous pourrions encore interviewer. Une institution d'appui à la démocratie comme la nôtre, constituée pour promouvoir et protéger le droit de l'homme, et bien ne peut que examiner ce genre de dossier, même si on intervient parfois en retard, faute peut-être de moyens.
Sachez aussi que l'unité de police de la MONUSCO s'engage à consolider son appui vis-à-vis de l'inspection générale de la police nationale congolaise. C'est ce qui ressort des échanges que le conseiller police des Nations Unies en provenance de New York, Faisal Chakar, a eu hier mardi avec le commandant de l'IGPNC, Patience Mouchidiave. Cet appui consiste en la donation d'équipements informatiques, la réhabilitation des infrastructures et le renforcement des capacités. Le commandant de l'inspection générale général de la PNC, Patience Mouchidiav, salue cette collaboration qui favorisera les efforts de son institution à professionnaliser les unités de la police nationale congolaise. On écoute à ce sujet la chef de la composante police de la MONUSCO, Mamona Ouedraogo, dans ce propos recueilli par les services de communication de l'inspection générale de la police congolaise.
L'inspection générale de la police nationale congolaise est une structure très importante dans le cadre de la redevabilité de la police nationale congolaise, d'où tout l'intérêt du conseiller police de New York de le rencontrer et de voir dans quelle mesure les personnels de la MONUSCO appuient, quelle est la qualité de l'accompagnement que cette structure-là reçoit du personnel de la police de la MONUSCO et quelles sont les perspectives toujours dans le cadre de la professionnalisation et de la redevabilité de la police nationale congolaise. Il y a beaucoup d'activités au profit de l'inspection générale de la police nationale congolaise, des activités de renforcement de capacité, de donation d'équipements et de réhabilitation d'infrastructures.
La République démocratique du Congo occupe la 163e place sur 182 pays dans le rapport 2025 de Transparency International sur la perception de la corruption, liste publiée ce mardi. L'organisation souligne que la corruption dans la gestion des fonds publics limite l'accès des citoyens aux services essentiels et affecte particulièrement les populations les plus vulnérables. Transparency International estime que ce phénomène traduit un déficit d'intégrité politique et appelle les gouvernements de la région à prendre des mesures significatives pour lutter contre la corruption et renforcer la démocratie. On écoute les explications d'Ernest Mpararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et point focal de Transparency International en RDC. Il est joint par Alain Irung.
Transparency International a publié l'indice de perception de corruption 2025 et comme vous allez le lire, la RDC n'a pas évolué. Elle a gardé sa place de l'année 2024. Elle a obtenu 20% des points et cela montre effectivement que la corruption est toujours institutionnalisée et il n'y a pas beaucoup d'efforts pour la combattre. Dans les pays de l'Afrique subsaharienne, la RDC reste toujours à la même place comme parmi les pays africains les plus corrompus. Et cela doit interpeller les autorités en place pour effectivement qu'on puisse donner des priorités à la lutte contre la corruption parce que tout ce que nous subissons aujourd'hui, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, les défis que la RDC traverse, ce sont des défis de gouvernance et qui a comme conséquence la corruption. Donc vous allez le lire aujourd'hui dans ces rapports que la RDC reste toujours parmi les 20 pays les plus corrompus de la planète.
Au Maniema, 5 sites pilotes ont été identifiés pour des études de faisabilité en vue de la construction des mini-barrages électriques ou de l'installation de stations météorologiques. Ce travail a été réalisé par le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo en collaboration avec ses partenaires. Ces sites s'inscrivent dans le cadre du projet Eau, Énergie et Écosystème WIN en sigle, exécuté par la coopération allemande GIZ. Selon les organisateurs, cette initiative vise l'exploitation et la conservation durable des ressources naturelles. Des détails avec Florence Kizalunga.
D'après le directeur du CREBAC, le professeur Raphaël Chimanga, le projet WIN est particulièrement bénéfique pour le Maniema qui dispose d'un important potentiel en ressources naturelles, notamment en eau. Ces ressources, souligne-t-il, peuvent contribuer davantage au développement de la province.
Il était question de pouvoir avoir de la concertation avec les parties prenantes. Il était aussi question de pouvoir identifier les sites de démonstration, puisque ces projets servent des cas pilotes. Nous sommes arrivés à déterminer les sites de démonstration. Nous avons identifié 5 sites, dont les sites de Mikelenge, qui est vraiment un bassin versant urbain qui subit des pollutions, mais aussi qui manifeste des cas d'inondations. Le site de Kasuku, la rivière Kasuku. Nous avons identifié les sites de la rivière Lila, où il y a un grand potentiel hydroélectrique. Le quatrième site, c'est celui de la rivière Oulindi. Et le cinquième site, c'est celui de la rivière Kunda. Donc voilà les 5 sites que nous avons identifiés.
Ces 5 sites serviront de base pilote pour la collecte des données, a conclu le directeur du CREBAC. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Guinée, le transfert de Toumba Diakité, ancien aide de camp de l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara, condamné à 10 ans de prison pour crime contre l'humanité, a provoqué des tirs, le bouclage du centre de Conakry et une confrontation publique entre le parquet et la défense.
L'invité.
L'absence prolongée du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, pose problème. Cette absence est une violation de la loi, a déclaré Maître Justin Kiela, président national du parti Vent d'Avenir, lundi à Lubumbashi lors d'une conférence de presse. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont échangé autour de cette question. On les écoute au micro de Guy Maté Tsongo.
Maître Justin Kiela, vous êtes président national du parti politique Vent d'Avenir. Vous êtes également notable de la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qui vous motive pour dénoncer l'absence prolongée du gouverneur Jacques Kiaboula du Haut-Katanga?
Écoutez, je suis très loin de faire l'avocat du gouverneur Kiaboula. Je suis très loin de faire le bourreau du vice-gouverneur qui fait l'intérim en province. Je me fais disciple de la loi parce que moi j'ai prêté serment comme avocat et je sais que même l'Union sacrée est derrière la loi, on ne viole pas les lois. J'ai juste tirer la sonnette d'alarme sur le fait qu'il y a une illégalité qui s'est installée dans la province. La loi a déjà tout prévu. Ce que la loi n'a pas prévu n'existe pas. On ne peut pas faire exister la loi là où elle n'a rien dit. Quand un gouverneur est absent de la province, c'est son vice-gouverneur qui fait l'intérim, c'est automatique. Mais dès lors qu'il dépasse le délai de 120 jours, personne ne dit mot, le ministre de l'Intérieur ne bouge pas, l'Assemblée provinciale ne dit rien, et aujourd'hui nous sommes à 7 mois, nous avons un gouverneur intérimaire qui est là, qui se recherche, j'imagine, qui essaye de commencer à imprimer sa propre vision. Alors qu'en réalité, il y a un gouverneur qui est au pays. C'est pas qu'il a été invité aux États-Unis, il est à Kinshasa ici. Si le gouverneur Kiaboula est passible d'une quelconque infraction, mais qu'on l'amène devant son juge naturel, l'Assemblée provinciale devrait constater l'absence du gouverneur au-delà de 3 mois, mettre faire une motion, on le met de côté, on organise les élections. Dès lors qu'il est encore dans cette situation-là, c'est un flou juridique, ça c'est marcher sur la loi. Voilà ma position à moi. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Moi, c'est la loi qui m'intéresse.
Emmanuel Mukundi, vous êtes professeur à l'université de Kinshasa. Vous êtes député national élu de Nyunzu dans la province du Tanganyika. Vous êtes aussi rapporteur du rassemblement des députés katangais. Comment vous réagissez à cette absence prolongée du gouverneur?
Je ne peux pas me lancer dans le méandre juridique, mais je reste dans le monde politique. Que ce soit Kiaboula ou les autres gouverneurs du Grand Katanga, nous leur avons dit qu'ils sont victimes de leur choix. Parce que on leur avait dit que ces régimes vous recrutent pour vous utiliser et lorsqu'on vous cisse comme digi dans une bouteille, on vous jette comme l'emballage qui est la bouteille. Kiaboula, comme son adjoint et les autres, sont victimes du régime. C'est un régime qui vous utilise et lorsqu'on trouve qu'on n'a plus besoin de vous, on vous jette. On a recruté Kiaboula pour museler les autres hommes politiques katangais, les grands hommes politiques katangais, notamment Kabila, Moïse et les autres. Et aujourd'hui, le volant tourne maintenant dans sa poitrine. C'est lui-même qui en est victime.
Alidor Kibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN, vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Le problème est-il juridique ou c'est plutôt un problème politique?
Je constate que sur le plan juridique, le problème y est. Parce que la loi n'est pas respectée. Sur le plan politique, il y a aussi un problème qui a des répercussions sur le respect de la loi. La disparition du gouverneur qui n'a pas été constatée par l'Assemblée provinciale. Est-ce que la loi dit que parce que l'Assemblée n'a pas agi, il faut que le gouvernement central agisse? Je dis non. Ce que la loi n'a pas dit, on ne peut pas fabriquer de choses. Mais il y a déjà des cas que j'appellerais abusivement de jurisprudence. Nous avons vu Mouyej comment il est parti. Mais pour permettre à la province d'avancer, Mouyej a démissionné. Si on constate qu'effectivement, il y a des problèmes. Pour permettre à ce que le gouverneur puisse regagner sa province, mais il est membre de la majorité peut prendre des mesures pour le pousser à une démission, ce n'est pas à exclure, parce que c'est l'unique voie par laquelle, si l'Assemblée ne sait pas se prononcer, l'autre possibilité, c'est que le gouverneur doit accepter de démissionner ou doit être poussé à la démission pour permettre à la province de tourner normalement et dans le respect des normes.
C'est aussi la fin de ce journal. Vous pouvez continuer à suivre Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi. Ce journal a connu la coordination et la supervision éditoriale de Lévin Mbouinga-Vobo et mise en onde par André Mongou. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.